Radio Tarot, une émission pour explorer les archétypes sans tomber dans les stéréotypes. Tous les premiers du mois, je, Alice, cartomancienne, partage mon analyse des cartes du tarot. Un regard queer et féministe sur le monde ésotérique. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Tarot. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas venue au micro de la radio pour pouvoir créer un épisode toute seule où je vous partage mon analyse, mes représentations, mes enjeux autour d'une carte avec un point de vue queer et féministe. Dans cette manière de tirer les cartes pour déconstruire les systèmes. Je suis extrêmement contente d'être là au micro aujourd'hui et dans vos oreilles. Et cette carte, elle m'intimide un peu, mais à la fois, elle est tout à fait adaptée à ce que j'essaye de créer avec Radio Tarot. Alors j'y vais. Cette carte, c'est le Hiérophante. Quand je dis qu'elle m'intimide un peu, c'est que j'ai eu envie de faire quelque chose d'assez solide en m'inspirant de l'énergie de cette carte. Du coup, je me suis demandé s'il allait falloir que je vous parle de la cabale, parce que j'avais un peu la flemme. Ou que j'aille me replonger dans l'histoire de la Golden Dawn. Alors on peut dire que, comme mon prénom l'indique, je suis tombée dans le trou du lapin. Alors voilà, dans ce trou du lapin, je me suis un peu perdue. Je suis allée voir le littré. C'est pas souvent, hein. C'est pas sur chaque carte que je vais voir le littré, mais pour voir pourquoi avoir choisi de se référer à la prêtrise grecque, à l'initiation des mystes, des mystiques. Je suis allée chercher les sources et j'ai trouvé des choses qui parlaient justement de montrer caché, de sacré, d'initiation. Et je pense que ça participe d'être un peu mal à l'aise avec le hiérophante parce que ça nous parle de quelque chose et ça nous parle de quelque chose où tout le monde n'a pas accès. Il y a quelque chose autour de cette carte qui parle de rapport à la vérité, à la conformité, à la tradition, qu'il vaut le coup de déconstruire un peu. Et je vous propose, pour faire ce travail, de commencer par un extrait d'un documentaire de l'histoire du tarot.
Tous les sages hiérophantes, dépositaires de la tradition occulte de l'Égypte, s'étaient réunis pour débattre d'un très grave problème. De par leur faculté prophétique, ils avaient acquis la certitude que leur civilisation bientôt s'écroulerait, et avec elle, les temples des dieux. Le savoir caché, qui depuis la nuit des temps se transmettait de maître à disciple. Et ils s'étaient réunis pour tenter de trouver un moyen de sauver de la destruction ce savoir secret. Un troisième hasarda, confions notre savoir à un homme simple et vertueux qui, avant de mourir, le confiera à un autre homme simple et vertueux, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette vérité puisse de nouveau être professée et comprise. Mais on lui objecta que même les âmes les plus pures et les plus belles sont inévitablement sujettes à la tentation. Alors que faire ? Et le plus jeune des adeptes prit la parole. Confions aux vices, aux énergies du mal qui dorment dans l'humanité, les germes de notre savoir caché. Gravons notre savoir avec des symboles apparemment innocents sur des feuilles de papier qui, multipliées à l'infini, serviront à assouvir une des passions les plus viles de l'homme, la passion du jeu. Confions au mal la vérité qui, cachée sous ces symboles apparemment innocents, pourra de nouveau, un jour, être révélée et enseignée. Et là, tous les fidèles se levèrent, applaudirent, et ainsi ils adoptèrent cette résolution. Et ainsi fut créé le jeu de tarot.
À Alors voilà, on vient d'écouter un extrait du documentaire « Histoire du tarot » dans lequel on entend la voix d'Isabelle Nadolny. Donc Isabelle Nadolny est une historienne, conteuse et formatrice autour des enjeux de tarot, mais pas que, qui nous lit un extrait de « Courte de Gobelin » qui revient donc sur l'histoire du tarot dans son 8e exemplaire. On est en 1781. Et comme on peut le voir, il y a vraiment beaucoup d'arrangements autour des faits et un imaginaire qui, je pense, est permis parce que nous sommes dans le monde de l'ésotérique et en particulier avec la figure du hiérophante. Alors, je vous recommande ce documentaire qui est disponible parce qu'il aborde énormément de choses et surtout sur la mythologie du tarot et sur cet imaginaire de sérieux, d'occulte, de messages sacrés et aussi complètement sorti des enjeux de matérialité. C'est quelque chose qu'on peut souvent voir par rapport aux hiérophantes parce que la recherche de la vérité serait comme quelque chose qui serait pur, qui serait enlevé de tous les enjeux matériels. Alors qu'en fait, fabriquer un jeu, avoir des cartes, jouer à des enjeux matériels. Et donc dans ce documentaire, il y a plusieurs personnes qui interviennent à différents endroits du monde du tarot, qui parlent de leur rapport aux cartes, de leur rapport à la doctrine aussi, de leur rapport aux sources, de la recherche de qui est la première personne qui a créé un tarot pour pouvoir avoir ensuite une histoire qui soit, qui puisse avoir un point d'origine. Voilà, donc même si je sais que les histoires sont des choses qui s'entremêlent avec des contraintes techniques, avec de la référence, avec des sources, je le sais, même si je ne suis pas historienne, je le sais, et bien moi-même, en construisant cet épisode sur les hiérophantes, je suis tombée dans ce piège d'avoir envie de voir qu'est-ce qu'il y a au tout début et de pouvoir raconter l'histoire à partir de ce moment initial de la première édition d'un tarot. Alors le hiérophante, il vient aussi poser la question du rapport aux sources. Comment est-ce qu'on cite ? Et j'ai réalisé que moi, dans Radio Tarot, je citais très peu. Je vous partage mes réflexions d'une manière sensible et peut-être un peu moins sourcée. Ça ne veut pas dire que les sources ne sont pas là. Ça veut dire que je choisis à qui est-ce que je fais référence. Et quelle est l'ambiance dans laquelle j'ai envie de vous plonger. Mais cette question de citer les sources, de la rigueur, en fait, du travail de recherche, elle m'interroge profondément dans le monde ésotérique. Depuis que je suis dans cet univers-là, je suis beaucoup plus attentive à qu'est-ce qui est dit, quelles sont les sources, et de manière générale, au rapport d'autorité qu'il peut y avoir. Parce que je crois que le hiérophante, il parle aussi de ça, il parle d'autorité. Donc l'autorité, on peut le voir du côté de l'expertise, c'est-à-dire, je suis expert dans mon domaine, mais on peut aussi le voir du côté de l'argument d'autorité. C'est-à-dire que des fois, il y a des manières de citer qui ne sont pas tant pour citer, pour donner accès. Le principe d'une bibliographie, c'est-à-dire si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas, mes sources sont ici, vous pouvez vérifier, ne prenez pas ma parole comme la vérité. C'est plutôt pour montrer qu'on sait. Donc on va lâcher des noms pour montrer qu'on sait. Et ça, c'est un enjeu de responsabilité lors de la transmission. Comment est-ce qu'on croise nos sources ? Comment est-ce qu'on s'assure que ce qu'on dit est vrai ? Et pour moi, ça passe par un travail de sourçage, mais aussi un travail de veille. Parce qu'en fait, les espaces de recherche, les espaces de création humaine sont riches et multiples, et il y a des choses qui évoluent très vite. Et du coup, comment est-ce que, quand on est intéressé par un espace, par des réflexions, on arrive à poursuivre, à suivre ce que d'autres personnes produisent et viennent pour éclairer la manière de réfléchir sur un sujet, là par exemple, le sujet de l'histoire du tarot. Et là-dessus, eh bien, il y a un enjeu de genre. C'est assez marrant de voir comment dans le tarot, les personnes qui produisent des essais, qui réfléchissent, qui documentent, qui produisent de la théorie sont très souvent, voire majoritairement des hommes. Et les personnes qui utilisent le tarot, qui sont dans la pratique, qui prennent les cartes pour pouvoir accompagner d'autres personnes, eh bien, ce sont souvent des femmes ou des minorisés de genre. On dit ça souvent pour les chefs. On dit « Ah oui, c'est les femmes qui font la cuisine à la maison, mais c'est beaucoup des hommes qui sont reconnus comme grands chefs. Eh bien, figurez-vous que dans la production de savoir du tarot, il y a aussi cela. Et c'est pour ça que j'ai envie, dans Radio Tarot, de pouvoir choisir qui je cite. Quelles sont les personnes dont je valorise le travail, parce que je le trouve pertinent, parce que je le trouve pointu. Il me nourrit, mais aussi parce que j'ai envie de pouvoir offrir de la visibilité à des personnes qui sont souvent moins connues et reconnues que leur homologue masculin. Et encore actuellement, on ne parle pas que de la période des Lumières, quoi. Je reviens pas mal là-dessus, sur les enjeux de citation, mais c'est que c'est quelque chose qui est complexe pour moi avec Radio Tarot. Je me demande si ce que je fais, c'est assez solide. Alors moi, je n'ai pas de formation d'historienne. Moi, j'ai une formation de philosophie. Ce qui m'intéresse, c'est les systèmes, les concepts, les idées. Et comment des gens font semblant que ce n'est pas forcément lié à leurs égos. Quand on regarde l'histoire de la philosophie, donc déjà, c'est beaucoup des hommes, mais on peut voir comment certains textes sont écrits pour pouvoir dire que le précédent avait tort. Et du coup, on est un peu dans un combat de coq. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du spectacle, là-dedans. Et j'aime bien comment des gens mettent beaucoup de mots, beaucoup de concepts, plus ou moins intéressants, pour dire « Nya, 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 j'aime pas ce que Kant il a dit ». Voilà, il y a quelque chose que je trouve de l'ordre de la performance, que j'apprécie. Et ça nous amène sur un autre enjeu que je trouve intéressant par rapport aux hiérophantes, qui est celui de comment est construite la connaissance et la transmission. Eh bien, si nous cherchons les sources, si nous cherchons la première personne qui a parlé du tarot, on tombe sur Antoine Court de Guéblin. C'est quand même assez compliqué de se dire qu'on part de là, pour parler d'un jeu. Pour parler de quelque chose avec lequel on joue. Certes, on interroge, mais on vient jouer, en fait. Parce qu'avec des enjeux de transmission, verticale, ériger quelqu'un comme un maître à penser, c'est une pratique qui assez facilement peut glisser vers des rapports d'emprise. Et du coup, comment est-ce qu'on identifie, notamment dans les sphères qui ont un lien avec le sensible, les dynamiques d'emprise. Alors je pense que c'est un domaine où quand même on est plus susceptible d'avoir des dérives sectaires. J'arrive pas à savoir si c'est des dérives ou si c'est le cœur des enjeux. Et du coup, comment est-ce que nous, en réfléchissant aux hiérophantes, on peut avoir sa propre réflexion, sa propre hygiène sur qu'est-ce qu'on croit, comment est-ce qu'on le croit, qui est-ce qu'on croit. J'ai envie de nous inviter à faire ça parce que les enjeux d'emprise dans le monde spirituel font d'énormes dégâts. Moi, je trouve que le hiérophante, il sent le vieux papier. Il sent le vieux livre. J'ai l'impression que pas très loin, il y a une bibliothèque. Il y a un endroit où on peut aller vérifier, où on peut aller lire, on peut aller regarder. C'est un jeu de tarot, sous la main sort la carte du hiérophante, et sinon laisse-moi te raconter. Une personne de face, assise, autour d'elle une structure, des piliers très rectilignes. Face à lui et devant nous, en premier plan, deux personnes agenouillées, avec une tonsure. Le hiérophante, une main levée vers le ciel, fait un signe qui a l'air de signifier que certaines choses sont cachées. On retrouve des croix à plusieurs endroits, et la tonsure des personnes assises est celle de l'église romaine. Au sol, il y a des clés. Moi, pour moi, un des enjeux principaux du hiérophante, il est sur ces clés. Il est sur donner les clés. Et une fois qu'on pose la question des clés, eh bien, il y en a plusieurs qui sont sous-jacentes. Les clés de quoi ? Quel est le domaine dans lequel je suis en mesure de transmettre, d'offrir, d'ouvrir un univers et de rendre les personnes autonomes. Parce que pour moi, donner une clé, c'est ça. C'est transmettre quelque chose que la personne ensuite peut s'approprier, rendre propre à elle-même et peut ensuite elle-même transmettre. Comment est-ce que je choisis de donner les clés ou de faire planer les mystères? Du coup, où se limite mon champ d'expertise, les choses que je sais et sur lesquelles je peux donner les clés? Ensuite, il y a cet enjeu d'être à l'intérieur avec les colonnes. Mais c'est un intérieur qui est un peu grandiloquent, en fait. C'est pas un intérieur de maison, quoi. On est tout de suite dans un espace qui, à la fois, est intérieur et à la fois est public. Donc on est sur une pratique de la connaissance, de la transmission, qui se place dans un champ spirituel qui est cet espace à la fois intérieur et extérieur dans lequel le hiérophante peut prêcher. Les deux personnages sont à genoux, on y voit un rapport assez vertical. Une personne sait, les autres écoutent. Et ça, je pense que j'ai envie de venir l'interroger parce que le problème de la verticalité, le problème du sceptre, le problème du trône, c'est comment est-ce qu'on érige des personnes comme sachantes. Et on rejoint qui c'est qu'on cite, à qui est-ce qu'on offre du crédit, sur quels critères on met le crédit. Le tarot est toujours un enjeu de projection et quand on est face à une carte qui nous regarde comme ça, où est-ce qu'on se projette? Est-ce qu'on se naît un personnage en plus qui écoute des enseignements sacrés pour pouvoir saisir les clés? Est-ce qu'on est arrivé là avec une initiation? Ou est-ce qu'on se projette en tant que hiérophante? Parce que la transmission, elle est à plusieurs endroits. Qu'il n'y a pas que les initiés qui transmettent. Qu'au quotidien, nous partageons des choses que l'on sait juste, que l'on sait vrai, autour de nous, ou même dans l'espace public. Je pense qu'au plus on assume qu'on sait, au plus on réfléchit sur comment et qui on a envie de transmettre, au plus on offre des clés d'émancipation. Et c'est ce que j'essaye de faire avec Radio Tarot, de vous parler comment je vois les choses. Et c'est pour ça que cette émission est assez importante pour moi. Et surtout, cette carte nous présente des groupes et nous parle donc de comment le savoir est construit, de comment est-ce que c'est dans les yeux de nos pères, des personnes à qui on transmet, qu'on réalise aussi qu'est-ce qu'on sait et l'étendue de ce qu'on ne sait pas. Et que quand, comme l'invite le hiérophante, nous avons soif de rechercher la vérité et de se positionner dans le monde d'une manière juste, eh bien nous interrogeons, à partir de ce qu'on sait et à partir de ce qu'on ne sait pas, notre rapport à la vérité. Je ne crois pas que les hiérophantes nous parlent de conformité et de tradition dans un sens réactionnaire. On peut avoir une manière de comprendre les traditions comme ancrées dans des rapports de domination. Et heureusement, le monde évolue. Il y a des rapports de force, il y a des personnes qui viennent produire du savoir, qui viennent diffuser des nouveaux mots, par exemple celui de féminicide. Réaliser ce fait que les journaux, du moins les journaux de grande une, ne parle plus de crime passionnel, mais de féminicide, est un travail de hiérophante. On peut faire évoluer les mots, on peut faire évoluer les pensées, on peut faire évoluer les réflexions. Les mots sont importants, ils ont du pouvoir. Comment est-ce qu'on les choisit? Comment est-ce qu'on les transmet? Par rapport à ces enjeux de verticalité, d'emprise, du hiérophante, il y a cette proposition de s'imaginer que l'espace du sachant est un espace qui tourne, parce que je crois que le savoir, la connaissance, se crée dans l'échange et le dialogue. On va aborder donc la question de la pédagogie. J'ai parlé d'une représentation traditionnelle du hiérophante qui est très verticale, avec des personnes à genoux, une personne assise mais par au-dessus. Déjà, on peut s'imaginer que c'est une scène et que les personnes qui sont à genoux, ensuite, prennent le trône, prennent cet espace de parole, de pouvoir, prennent place dans l'agora pour elles-mêmes transmettre leur vision. Parce que moi, je crois que la connaissance, c'est quelque chose qui se fabrique toujours à plusieurs, que ça soit dans l'échange, l'interaction, le fait de pouvoir tester nos idées, y réfléchir, élargir le champ de ce qu'on pense au contact d'autres personnes qui ont d'autres idées. Et oui, c'est plus de travail. Et oui, ça demande d'échanger en groupe. Mais en même temps, peut-être c'est ça la condition réelle de l'émancipation par les cartes. C'est de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont en commun ce goût étonnant de choisir un jeu pour lui poser des questions. Je dis ça et je suis tranquille derrière mon micro. C'est vrai. Mais je ne prétends pas à vous construire un cours présentement. Je partage ma vision des cartes en espérant qu'elles vous inspirent, qu'elles vous permettent de voir d'autres angles, qu'elles vous fassent réfléchir. Moi, je fais de la radio. Ce qui m'anime, c'est les voix, c'est la possibilité de communiquer, d'avoir ce moment de stimulation, de questions-réponses. Et pour moi, le Hiérophante, il parle de ça. En fabriquant cette émission, je me suis demandé si le Hiérophante serait sur Twitch. Si le Hiérophante est plutôt du côté de la recherche, de l'historien ou du vulgarisateur. Et je crois que c'est plutôt du côté du vulgarisateur. Je pense que le Hiérophante transmet en public. Et encore une fois, la question du public et du privé, de où est transmis les choses, même si nous transmettons tous et toutes des choses, comment est-ce que notre voix, notre parole est entendue, est écoutée et diffusée? Ben, il y a un biais en lien avec le patriarcat. Et même dans le tarot, où on va choisir de voir la féminité plus vers l'intériorité, vers le travail de soi, le fait de ne pas avoir besoin de briller avec ses connaissances, comme pour les reines et les rois, et la masculinité vers une diffusion très large, une transmission, j'ai envie de dire, plus efficace. Et c'est ça que j'avais envie de venir interroger avec le Hiérophante. Qui nous donne les clés? Les clés de quoi? Pour qui? Nous avons donc une responsabilité quand on reçoit un savoir. De l'interroger, de l'introduire dans la manière dont on perçoit, dont on voit le monde, de ne pas s'accaparer le travail des autres, de pouvoir dire d'où est-ce qu'on tient ça, de pouvoir remercier les personnes qui nous ont enseigné et dans ce fait, de réfléchir à comment est-ce qu'on remercie bien plus les hommes que les femmes. Ne serait-ce que par l'existence du mot « hommage » qui n'est pas infamage. La question de la citation, de la vérification, de la responsabilité qu'on a sur qu'est-ce qu'on dit est d'autant plus importante dans le monde actuel où les fake news sont très présentes et où elles se répandent bien plus facilement qu'un travail de recherche sourcé. Alors je nous invite à faire ça, même s'il s'agit du monde de la croyance. Allez regarder les historiens, allez choisir aussi dans quelle maison de pensée vous sentez que vous vous inscrivez. En lien inscrit avec des courants théoriques et des courants idéologiques. L'idéologie, c'est pas juste un truc de gauche. L'idéologie, c'est une construction de pensée dans laquelle on s'inscrit. Et c'est pas parce qu'elle a l'air normale qu'elle est naturelle. Je crois que le Hiérophante, il vient interroger ça. Quelle est notre maison théorique? Et donc j'ai envie de nous enjoindre à se demander quelle est notre maison théorique. Et comment est-ce qu'on situe son point de vue? Parce que le travail, il est situé. Nous produisons un discours dans un certain domaine, dans un certain contexte. Et ça ne veut pas dire que tout est relatif quand je dis ça. Ça veut dire qu'il y a un vrai effort à partir du moment où on prend la parole et où on écoute quelqu'un, de dire comment moi, je me situe dans ce discours. Est-ce qu'il y a de la place qui est faite pour les personnes comme moi? Et sinon, comment nous pouvons échanger pour pouvoir élargir le discours? Mon regard est forcément impacté par là où je suis. L'enjeu de neutralité est souvent un enjeu de domination. On pense pouvoir dire tout parce que le monde a été créé pour nous. Et c'est le cas entre les femmes et les hommes. Et c'est le cas sur la question de taux de mélanine. et c'est le cas sur la culture bourgeoise, plus les valeurs que nous portons, plus le monde a été créé à notre image, plus on a l'impression qu'on peut parler de l'entièreté du monde. Et face à ça, c'est important de s'interroger sur qui nous sommes, comment, quand on produit un discours, moi qui fais ce podcast, je produis un discours, je sais quels sont mes désirs, quels sont mes objectifs, comment j'ai envie de transmettre une certaine parole, avec une certaine forme, dans le monde du soin, de l'ésotérisme en particulier, celui du tarot. Alors j'ai envie de nous enjoindre à faire ça, à se demander d'où est-ce qu'on parle, ou d'où est-ce que cette personne parle. Pas pour décrédibiliser, ce n'est pas ça l'enjeu, mais pour pouvoir voir dans quelle maison théorique on se situe. Où est-ce que nous avons des angles morts ? Parce que nous en avons toujours. De plus, pour moi, situer son point de vue permet de réfléchir à la question de l'appropriation culturelle. C'est un vrai sujet dans le monde ésotérique, l'appropriation culturelle. Et je pense que c'est intéressant d'en parler avec le hiérophante, parce que passer du pape au hiérophante, c'est-à-dire, encore une fois, s'inscrire dans la fabrication de la Grèce antique comme le berceau de la civilisation, c'est une certaine ambiance, quoi. Vous voyez, c'est un truc, bon, c'est un truc classique, et c'est un truc d'histoire occidentale, en fait. Et avec l'ésotérisme, il y a vraiment cet enjeu d'appropriation culturelle qui est très fort. Alors, est-ce qu'on peut parler d'appropriation culturelle avec la culture grecque ? Je crois que oui, en fait. Mais elle se positionne encore différemment pour les territoires qui sont non-européens. On va transmettre des pratiques, on va prendre énormément de symboles et on va les inscrire comme des sortes de mots-clés à l'intérieur de nos cartes, à l'intérieur de notre manière de penser, en se disant que c'est une manière de valoriser des spiritualités qui sont diverses et de soi-même faire la synthèse. Mais moi, je m'interroge. On sait que le symbole, c'est un peu la punchline de l'image. Alors évidemment, aussi dans le tarot, c'est extrêmement intéressant de travailler sur les symboles. Mais réduire une croyance, un rapport au monde à un symbole, c'est quand même... C'est quand même une certaine pratique. Et je pense que sur nos territoires, en Europe, eh bien, nous nous sentons tout à fait libres à nous penser citoyens du monde, et encore plus dans la sphère spirituelle, de se mettre en lien avec d'autres cultures dont la plupart du temps nous ne connaissons rien, de ne pas réfléchir à qui sont les personnes qui nous enseignent, est-ce que les personnes qui nous enseignent sont des personnes qui sont issues de cette culture et de ce rapport au monde ? Mais juste de se dire, le yoga, c'est cool. Comment est-ce qu'on se rapporte à des pratiques ? Comment est-ce qu'on les ancre dans une spiritualité, dans une philosophie ? Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment est-ce qu'on ne prend pas que ce qui nous arrange pour le mettre bout à bout et créer du syncrétisme ? Le hiérophante vient interroger le rapport qu'on a au syncrétisme. Cette manière de mettre ensemble et bout à bout différents rapports au monde, différents symboles, différents rituels, et d'en faire sa petite sauce personnelle, qu'on peut ensuite vendre sur le marché. Des personnes en mal de sens, qui ont envie d'un peu d'exotisme. Alors le hiérophante, il vient nous parler de ça, il vient de nous parler de comment est-ce qu'on regarde, qui c'est qui nous transmet, dans quel but, dans quelle position, comment est-ce que la personne se situe, quelle est son éthique par rapport au pillage des ressources physiques et des ressources intellectuelles de pays colonisés, par exemple. Alors voilà, c'était un épisode assez riche. Évidemment, je ne suis pas sûre d'avoir aborder tout ce que je voulais aborder ou même que je l'ai fait de la manière dont je le souhaitais. J'ai envie que cet épisode sorte. J'ai envie de vous retrouver régulièrement et de vous faire écouter qu'est-ce que j'ai à raconter sur les cartes, comment nous pouvons les voir autrement, comment nous pouvons réfléchir à en faire des espaces qui sont plus émancipants, qui sont plus collectifs. Et la question de la transmission est une question qui est tellement centrale dans mon existence. La question de comment est-ce qu'on situe son point de vue, qu'est-ce qu'on met en place en fait pour transmettre. J'avais envie de vous annoncer que j'ai créé des cartes de visite pour Radio Tarot. Le salon Rémissaire m'a donné envie d'être capable de plus promouvoir mon podcast. Et sur cette carte de visite, j'ai choisi de mettre quels étaient mes titres, qu'est-ce que je faisais, et j'y ai mis formatrice. Alors dans le monde du tarot, ça n'a pas encore de réalité. Par contre, dans le monde de la radio, c'est le cas. J'ai formé des gens, j'ai eu d'excellents retours. J'ai mis en action tout ce que j'ai appris, tout ce que j'aime, tout ce qui me fait vibrer dans ce sentiment de voir des gens qui apprennent. Parce qu'il y a quelque chose de très... Si on dit que l'argent est une énergie, pourquoi pas hein, peut-être ça peut détendre des personnes, mais moi je pense que c'est la transmission qui est une énergie. C'est cette stimulation. C'est ce moment où il se passe quelque chose d'un peu magique ensemble, parce que souvent quand on apprend dans nos vies actuelles, c'est seul, ensemble, il y a comme une électricité dans l'air, il y a quelque chose de stimulant. Et pour moi, le Hiérophante, il vient parler de ça. Il vient parler de ce pépillement d'idées. En tant que garant du cadre, je garantis l'existence. Et en tant qu'apprenante, je garantis aussi l'existence, mais pas exactement au même endroit. Mais je suis quand même garante du cadre. De créer un espace où les personnes qui sont là sont les bienvenues, apprennent, ne se sentent pas jugées, arrivent à trouver leur place. Pour moi, donner les clés, c'est permettre à des personnes de trouver leur place. Et en fait, dans le monde du tarot, il y a des chercheuses qui donnent les clés, qui rappellent que c'est un jeu, qui nourrissent, qui stimulent, qui donnent envie d'aller plus loin. Et j'ai envie de les saluer. J'ai envie de saluer Emmanuel Higère. J'ai envie de saluer Katou Tarot. Merci. Merci pour la stimulation, merci pour la découverte. Mais merci pour les rencontres. Vous êtes un peu meilleur au fond. Et peut-être je le suis pour certains, certaines d'entre vous. Alors ça signifie que c'est un peu moins vertical que ce qu'on imagine. Je vous embrasse et on se retrouve dans 2 semaines avec une émission en compagnie du Duc Va-Nu-Pied. Vous venez d'écouter Radio Tarot. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un d'autre à qui il pourrait plaire. Et si vous voulez connaître les prochaines dates de sortie, rejoignez-moi sur Instagram @atropia. Merci pour votre écoute.